Jésus dort. C'est le seul récit des Écritures où Jésus dort. C'est-à-dire qu'il est complètement passif. Il subit les événements. Et en plus, c'est dans des circonstances particulières. Il dort dans une barque. Quand on est menuisier, c'est pas forcément le meilleur endroit pour dormir. Une barque qui est secouée par la tempête. Alors ceux qui ont déjà fait la traversée de la Manche, hein, quand il y a un peu de vent, vous voyez ce que ça donne. Les vagues qui mugissent, qui rugissent, qui font du bruit en tout cas. Et en plus, l'embarcation prend l'eau. Là, vous avez tous les sens, hein, le toucher, le goûter. Et Jésus dort. Jésus dort du sommeil du juste. Ce fameux sommeil quand rien ne nous tourmente. Les disciples, eux, ils sont pris dans la tourmente, hein. Ils paniquent. Le vent souffla et la pluie tomba et la barque s'enfonça. Le vent souffla et la pluie tomba et la barque s'enfonça. Et à l'arrière du bateau, Jésus dort tranquillement. L'arrière du bateau, c'est là où on veille normalement, hein. Souvenez-vous de l'Odyssée d'Ulysse. Jésus dort. Et visiblement, ça ne plaît pas beaucoup aux disciples. Alors il le réveille pour lui asséner, « Maître, nous allons mourir, ça ne te fait rien !» Pour bien mesurer le poids de cette remarque, il faut aller du côté des autres synoptiques, qui eux ont arrondi les angles. Luc chapitre 8, verset 24, pour ceux qui prennent des notes, Luc 8, 24. Maître, maître, nous allons mourir. Ça ne te fait rien et passer à la trappe. Il ne reste plus qu'un cri, un SOS. Et Matthieu 8, 25. Seigneur, sauve-nous. Nous allons mourir. Non seulement le ça ne te fait rien, il est passé par-dessus bord, mais tous ces SOS qui partent dans les airs deviennent des prières. Seigneur, sauve-nous. Marc, lui, il les cache. Maître, nous allons mourir et ça ne te fait rien. C'est exactement ce que Marthe dit à Jésus. Vous vous souvenez de Marthe ? Qui accueille Jésus chez elle et qui prépare le repas. Elle est en pleine tourmente et elle coule sur tout ce qu'il y a à faire. Et Marie, elle, tranquillement installée au pied de Jésus comme une disciple. Et à un moment, Marthe sombre. « Seigneur, ma sœur me laisse toute seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. » Ça ne te fait rien. Tu t'en fiches. On est tout seul à ramer dans cette galère. Tu pourrais au moins nous donner un coup de main au lieu de dormir. Jésus se réveille d'entre ceux qui dorment. Et visiblement, Jésus ne semble pas très content. Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Mais vous n'avez donc pas encore la foi. Mais la foi de quoi ? La foi de qui ? N'ont-ils pas la foi quand ils demandent à Jésus de faire quelque chose ? N'ont-ils pas la foi quand, selon Matthieu, ils prient Jésus ? N'ont-ils pas la foi quand ils se tournent tout simplement vers Jésus ? Ben non, non, c'est pas la foi. Ça, c'est avoir les fois, avoir peur. Et la fin du récit le souligne. Hein. Les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux, « Mais qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Les disciples sont plus effrayés de Jésus que de la tempête. Combien sont-ils ceux qui pensent avoir la foi, alors qu'ils ont tout simplement les foi? Ceux qui prient comme on crie pour réveiller Dieu. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, protège-nous. Mais de qui? De quoi? Alors, dans le récit, il est question des forces de la nature. Matthieu, lui, parle carrément de séisme. La puissance des éléments déchaînés. Alors, il est bien question de force, de puissance. Marc, il utilise le même langage qu'il avait utilisé au premier chapitre de son évangile quand il était question de chasser un démon. Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors !» Et là, dans notre chapitre, Jésus rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» J'ai pris la NBS hein, parce qu'ils ont créé un langage spécial Bible avec le rabroua, au moins on voit ce que ça veut dire. Alors, cette symbolique, je la retrouve dans ce tableau d'Okusai. Okusai, il est né au milieu du XVIIIe siècle et il est mort au milieu du XIXe siècle. Hein. C'est la grande vague de Kanagawa. Alors, comme nous, on est des Occidentaux, vous êtes en train de lire le tableau à l'envers. Donc, on va le mettre à la mode occidentale. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire, le tableau, hein, puisque nous, on lit de gauche à droite. Ça n'a pas le même sens, hein. C'est eux qui vont vers la vague, ce n'est pas la vague qui vient vers eux. Si vous regardez l'écume des vagues, vous verrez que ce sont comme des griffes de démons. Okusai a représenté plusieurs démons, hein, donc on peut comparer. Des vagues qui menacent les barques. Vous les voyez les barques en bas, hein, il y en a trois. L'écume ressemble à ces griffes de démons qui menacent les pêcheurs. Les forces de la nature, ce sont des puissances qui dépassent les humains. Et Dieu peut prendre contrôle sur eux. Jésus le fera. Mais elles sont livrées à elles-mêmes depuis les origines. Alors la question que je me pose, c'est mais qu'est-ce que les disciples auraient dû faire dans cette situation-là? Est-ce qu'ils auraient dû laisser Jésus dormir tranquillement? Alors l'estampe apporte une réponse. Alors il y en a certains qui verront même Jésus qui dort dans une barque, hein, mais ça n'a rien à voir avec le texte biblique. C'est qu'il y avait d'autres barques avec la barque des disciples. Marc le précise, Matthieu et Luc, ils l'ont fait passer à la trappe aussi. Il y a d'autres barques, et on les oublie. Les barques qui, elles aussi, ont été prises dans la tempête. Mais pas de bol pour eux, Jésus n'était pas dans la barque. Tant pis. Alors, je l'ai dit au début, c'est le seul récit où Jésus est entièrement passif. Si on laisse de côté la passion. Passion, ça vient de passif, hein, où Jésus subit les événements. Jésus fait totalement confiance aux disciples. Il s'en remet à eux, entre les mains de professionnels de la mer. Et au début du récit, il y a un petit passage qui est difficile à traduire. Alors là aussi, je lis dans la NBS, la Nouvelle Bible Second. Les disciples l'emmenèrent comme il était. D'autres versions traduisent autrement. C'est-à-dire que Jésus se laisse embarquer. C'est les disciples qui ont la main. Ils prennent les choses en main. Et quand la tempête arrive, comme ils ont Jésus sous la main, ils demandent, mais ils demandent pour eux. Et les autres barques, on les oublie. Et les autres barques, eh bien, elles disparaissent tout simplement du paysage. Ceux qui n'ont pas Jésus dans leur galère. Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. Mais à eux, aux disciples, est-ce que ça leur fait quelque chose que les autres sont en train de périr? Une tempête s'est levée il y a plus d'un an, bientôt un an et demi. Une vague a déferlé sur toute la planète, comme un déluge. Et nos églises pensaient bien avoir les choses en main. Dieu n'était-il pas dans notre barque? Il y en a qui se croyaient vaccinés au début, divinement vaccinés par Dieu contre ce fameux virus. Pas besoin de masque, pas besoin de distanciation physique, pas besoin de gestes barrières. On a Dieu dans notre barque. Et la barque a commencé à s'enfoncer. Les chrétiens ont commencé à paniquer. Ils ont tempêté. Ils ont fait des vagues. Et Jésus qui dort tranquillement. Maître, nous allons mourir et cela ne te fait rien. Toujours la même réponse de Jésus, aujourd'hui comme hier. Mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore la foi? Pourquoi cette tempête en vous? Pourquoi est-ce que vous sombrez? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce que vous criez? Ah, peut-être que vous pensez avoir un passe-droit. Vous pensez être plus important que les autres? C'est la nature qui est ainsi faite. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi moi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas toi aussi? Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait souffler la tempête sur les justes comme sur les injustes. Mais vous êtes prêts à sacrifier les autres pour sauver vos idoles. Je prends un exemple, hein, juste un exemple. Donc là, il faut que je lise bien mes notes, sinon je vais m'énerver. D'une prière-crière qui m'écorche les oreilles. Un ami qui me demande si Dieu n'a pas envoyé la pandémie pour faire réfléchir l'humanité qui le rejette. 4 millions de morts, certainement 12 millions et peut-être même plus, de barques qui ont sombré. Tout ça pour que Dieu puisse faire comprendre à l'humanité qu'il est un Dieu d'amour et de vie. Alors, dans le calme de la tempête, qui suit la tempête, pardon, là je me mets à l'écoute de mes grands frères dans la foi. Ceux qui ont traversé une tourmente tout aussi meurtrière, et qui, eux, en ont tiré les leçons. Elie Wiesel, déporté à Auschwitz et à Buchenwald, qui raconte dans son livre « La nuit », le premier d'une trilogie, « Dans les camps de concentration, tous les matins, il y avait l'appel. Et tous les Juifs devaient passer devant les poteaux de pendaison et assister aux pendaisons. Alors, au bout d'un moment, on s'habitue, comme vous, quand vous regardez la télé, comme lors du premier confinement, quand on vous disait qu'il y avait 1000 morts. On s'habitue au spectacle. Jusqu'au jour où un jeune de 12 ans a été pendu. À 12 ans, on n'est pas assez lourd pour mourir par pendaison. Vous savez, la pendaison, ça vous casse le cou et vous mourrez directement. Alors lui, il a suffoqué. Et Elie Wiesel entend derrière lui un gars qui dit, Eliezer, où donc est Dieu? Elie Wiesel dit qu'il entendait en lui cette réponse. Où il est? Ben le voici, il agonise sur la potence. Jésus dort dans la barque, tranquillement. Une barque qui prend l'eau de toutes parts. Parce que la vie est faite de ça. Ensemble, avec Jésus, nous traversons les épreuves de la vie. Tout simplement parce qu'il a déjà donné sa vie pour moi. Alors, moi ça ne me dérange pas qu'il dorme maintenant. Parce que je sais que c'est lui qui veillera quand moi je dormirai à mon tour. Amen.